Il est 17h45, Info Soir, c'est avec vous, Liana Colombo.
Après 6 années de mandat en tant que maire du Mont-d'Or, Eddy Le Courrieux démissionne. Il s'est expliqué des raisons de son choix ce midi dans le magazine Transparence. Des peines de 18 mois et 2 ans d'emprisonnement pour 2 des 5 fugitifs de la prison de Koné. Les individus étaient jugés ce matin au tribunal correctionnel de Nouméa pour évasion avec effraction et tentative de vol d'une voiture. 11 jours après son lancement, la plateforme SudPro a permis de consommer la totalité des 1,2 milliard de francs alloués pour l'aide aux patentés et aux très petites entreprises. Initiation au BMX à Tina, du vélo féminin et un salon organisé à Nouville à 1 semaine de la fête des mères. Voilà une partie des activités que vous pourrez retrouver ce week-end sur le territoire. Et on parlera sport également dans ce journal, de football avec notamment le retour de la Super League, mais aussi du trail de la SNSM qui se déroulera ce dimanche à Tontouta. Bonsoir à tous. Élu en 2019 maire du Mont-d'Or, Eddy Le Courrieux a annoncé le 8 mai dernier qu'il démissionnait de ses fonctions. Invité ce midi d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, il est revenu sur les raisons de cette décision, Jean-François Baudin.
Eddy Le Courrieux avait choisi la date symbolique du 8 mai pour annoncer sa décision parce qu'il voulait le faire après s'être incliné devant le drapeau et le monument aux morts pour honorer la République. Il invoque, on le sait, des raisons personnelles liées à sa santé pour expliquer sa démission. C'est aussi reconnaître parce qu'il n'a plus l'énergie nécessaire pour s'occuper de la commune.
Je pense qu'il y a quand même un peu de ça, même si je veux pas l'avouer, hein. Je suis un homme combatif. Mais c'est vrai que 6 années de mandat, avec toutes les galères qu'on a eues, le Covid, les référendums, la crise économique, la crise sociale, l'USUP, la crise météorologique, enfin, je crois qu'on a tout eu dans ce mandat. Donc je pense quand même que ça a été un peu usant. Et c'est vrai que le fait d'avoir ravagé notre pays, ces émeutes, je me disais, nous, moi j'ai 63 ans cette année, on a participé dans les années 80, à la reconstruction du pays. On a participé à la reconstruction avec les provinces qui arrivaient. On a participé, nous, à notre manière, à l'émancipation déjà de notre pays, hein, de la Calédonie moderne. Et je me disais, oh là là, il faut encore recommencer, quoi. Et c'est vrai que je me suis dit, écoutez, peut-être place à quelqu'un de nouveau, peut-être place à quelqu'un de plus jeune ou de plus compétent ou qui a les capacités de se donner à fond.
Difficile de dresser un bilan de son action, mais Eddy Le Courrieux, qui a commencé comme policier municipal avant d'être chargé de l'urbanisme et de travailler successivement avec Victorin Boeva, Pierre Froger et Éric Guay, voulait apporter de l'humain dans sa fonction. Et il y a une méthode et un style Le Courrieux.
Les élus, ben, je crois qu'on a, au bout de 6 ans de maire, je crois qu'ils commencent à apprécier ma méthode, alors que je suis, vous savez comment je suis, hein, je suis un dur, je suis un gueulard, je suis tout ce qu'on veut d'ailleurs, mais je parle mal. Mais c'est vrai qu'il y a du cœur et je crois que les gens, au bout de tout ça, ils retiennent ça. Alors je les rassure parce qu'il y aura encore du cœur dans ce qui va arriver derrière.
Et c'était Elisabeth Rivière, actuelle 4e adjointe au maire, qui devrait succéder à Eddy Le Courrieux lors du conseil municipal qui se réunira mercredi. Impossible, quand on parle du Mont-d'Or, de ne pas évoquer la tribu de Saint-Louis qui coupe la commune en deux. Parmi les regrets exprimés par Eddy Le Courrieux, celui de ne pas avoir pu rencontrer le président de la République pour le sensibiliser à la situation du Mont-d'Or et à la nécessité d'une route de développement vers le Grand Sud. Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont très présentes sur la RP1, preuve que la situation n'est toujours pas normalisée, mais plusieurs solutions sont à l'étude et notamment un projet de marina sur le Vallon d'Or.
On travaille avec la province, hein, je remercie Sonia Baquès, mais on travaille sur un projet de marina sur le Vallon d'Or, projet d'1,5 milliard, 2 milliards pour faire de l'accostage de grosses unités, mais en même temps de mettre en place une darse pour pouvoir protéger ces bateaux en tout temps, pour avoir cette solution de repli et puis surtout qui sera un pôle de développement, pôle de la mer sur la partie Vallon d'Or, Mont-d'Or Sud et puis surtout l'île aux Baillis qui a un potentiel exceptionnel. Donc on travaille sur cette solution-là, mais sur la route, eh ben non. Non, la route en est là. J'allais dire, c'est notre croix, mais elle commence à être bien lourde.
Et le maire du Mont-d'Or regrette que toutes les tentatives pour développer Saint-Louis aient été empêchées parce que la tribu a toujours été instrumentalisée.
Toutes les infrastructures, les grosses infrastructures qu'on a proposées, elles n'ont pas eu lieu. On a toujours tout fait pour casser la dynamique d'aller développer Saint-Louis. Pourquoi ? Parce qu'on veut que Saint-Louis, ça reste une espèce de bras armé du combat, de la lutte pour l'indépendance. Alors que les gens, la plupart, ils ont envie de vivre dignement. On participe aux messes ensemble, on va aux enterrements, on va aux fêtes coutumières, etc. Les gens ont envie de vivre leur vie. Mais derrière, il y a une espèce de mainmise par certains pour utiliser Saint-Louis. Les jeunes, principalement, aujourd'hui, il y a plus de 60 personnes de Saint-Louis, plus de 60 personnes qui sont incarcérées pour des peines longues. Mais vous imaginez, on va faire sacrifier des familles ou des gamins pour des causes. Mais ce n'est pas ceux qui secouent le cocotier qui vont en prison, hein. C'est les gamins. Moi, je suis consterné par ça. Et quand ils ressortent, malheureusement, parce que les conditions de détention sont telles, quand ils ressortent, c'est pire.
Mais Eddy Lecourieux ne veut pas admettre que l'on ne peut rien faire pour sortir de cette situation. Selon lui, il faut poursuivre, il faut maintenir le lien. C'est la doctrine qu'il a toujours voulu appliquer pour Saint-Louis, même s'il se heurte à une certaine opposition.
C'est installé au sein de mon conseil, ou c'est installé dans les médias, un discours, ils ont tout pété, ils ont qu'à crever. Voilà, et je le dis crûment, mais je veux dire, ils ont tout pété, on ne sait pas c'est qui, et ils ont qu'à crever, on ne sait pas c'est qui. Donc moi, je n'ai jamais été pour ces discours, je trouve ça d'une banalité, d'une inutilité. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont cassé, et ben ils iront devant la justice, et il y a des gens, comme tout le monde, qui ont le droit de vivre. Et moi, c'est cette doctrine-là que j'ai employée jusqu'à aujourd'hui. Il faut maintenir le lien.
Depuis toujours, Eddy Lecourieux a été un militant et un élu du Rassemblement. Il revendique cette fidélité à son parti, à ses convictions et à ses valeurs.
C'est la France aujourd'hui qui réunit toutes ces communautés du Pacifique qui vivent là, les Wallisiens, ceux qui sont arrivés avec la mine, les Chinois, les Japonais, tous ceux qui sont là, je veux dire, c'est le pavillon bleu-blanc-rouge qui les maintient ici. Et moi, j'y crois. Comme je crois dans nos amis indépendantistes, je crois dans leurs valeurs humaines, je crois dans leurs valeurs culturelles, moi, je crois dans la valeur du pardon, je crois dans les valeurs du manou qui est posé par terre, mais pas avec une parole de mensonge, avec une parole de vieux, une parole vraie. Moi, je crois à tout ça. Et il n'y a aucune raison que, justement, on ne trouve pas cet accord si on concilie tout ça.
Le maire du Mandant reste résolument optimiste et il rappelle que les Calédoniens ont toujours été forcés de trouver un accord. Il est convaincu que ce sera le cas cette fois-ci encore, même s'il est surpris par l'attitude de Manuel Valls et opposé, bien sûr, à son projet d'indépendance association.
Une interview d'Eddy Lecourieux qui sera rediffusée dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. La mission d'information de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale achève une visite de 8 jours en Nouvelle-Calédonie. Elle a rencontré les responsables politiques et institutionnels, mais aussi des représentants de la société civile, afin de dresser un état des lieux de la situation en Nouvelle-Calédonie. Un rapport sera remis aux députés d'ici fin juin, afin d'alimenter le débat sur l'évolution statuaire et l'avenir du territoire. Le député LFI de Guadeloupe, Davy Riemann, préside cette mission.
Le but, c'était de voir tout le monde. C'est ce qu'on avait fait l'année dernière, mais là, on était encore un peu plus loin. Au-delà des institutions, il y a la population lambda aussi à discuter, échanger avec elle, les gens qui ont vécu des choses. Donc c'est important pour nous aussi de prendre tous ces éléments-là, toutes ces déclarations, de les intégrer dans le rapport. Et ça permettra, je l'espère, à nos collègues parlementaires et aussi au niveau de l'exécutif, à prendre conscience de la situation. Là, nous, on voit un territoire qui est en crise, pour ne pas dire généralisé. Depuis le 13 mai, nous sommes sur des crises qui se sont juxtaposées et donc qui pèsent avec tout leur poids sur tout le monde. Donc ça oblige aux responsables calédoniens de trouver une solution ensemble. Les hommes et les femmes de ce qu'on a pu voir dans ce pays qui sont en responsabilité ont toujours l'envie de discuter pour essayer de trouver une solution, nous on l'espère, rapide, pour redémarrer la vie économique, sociale, sanitaire, et ramener la confiance et surtout l'apaisement.
Le député LR Philippe Gosselin était présent lors de la dernière mission de la délégation Outre-mer en Nouvelle-Calédonie. C'était en mars 2024. À l'époque, il avait été marqué par les menaces de certains élus indépendantistes qui avaient alors déclaré être prêts à sacrifier 1000 jeunes. Philippe Gosselin a été rassuré par des discours raisonnables et responsables liés, selon lui, à la crise que traverse le territoire.
D'abord, un constat, c'est qu'il y a vraiment une situation qui est très compliquée, complexe et dramatique en Nouvelle-Calédonie. Une économie encore plus au ralenti que ce qu'on avait vu. Une société qui est aussi fracturée, bien évidemment, mais c'est aussi une fracture sociale, je dirais plus largement sociétale. Il y a de la douleur, il y a de la souffrance. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais il y a aussi cette petite espérance que, tellement au pied du mur, il faille quand même peut-être être collectivement raisonnable. Nous, on repart avec beaucoup, beaucoup de simplicité, de modestie, d'humilité, mais avec quand même ce sentiment que oui, il y a des choses qui peuvent encore se faire, se vivre, et en tout cas, les fils du dialogue ne sont pas rompus.
Les deux députés calédoniens ont participé aux échanges et seront co-rapporteurs du document de synthèse. Le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf.
Il faut que le rapport qui soit étudié et présenté à l'Assemblée nationale représente l'ensemble des sensibilités. Donc c'est une délégation qui est plurielle et qui est représentative. Je trouve que c'est toujours utile que des députés de l'Hexagone viennent en Nouvelle-Calédonie pour se rendre compte de la situation de manière très concrète. Parce que lorsqu'on s'exprime parfois à l'Assemblée, on a l'impression qu'on n'est pas compris ou que les subtilités ne sont pas comprises non plus. Et donc qu'il touche la réalité du terrain, forcément amène une plus-value pour la Nouvelle-Calédonie, c'est essentiel. Ce rapport, il va forcément derrière initier des débats au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur les points qui ont été écrits dans ce rapport. Donc il faut être vigilant, hein, je le serai parce que, évidemment, je tiens à ce que les positions des non-indépendantistes soient retranscrites. Mais surtout, ça peut permettre d'avoir le débat à l'Assemblée nationale parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de débat sur la Nouvelle-Calédonie.
Le député de la seconde circonscription, Emmanuel Chibaou, espère lui aussi que ce rapport permettra d'éclairer le débat.
Ce que j'en retiens, c'est déjà la sincérité avec laquelle les échanges se sont tenus. C'est d'avoir pu avoir une représentation importante de la société civile, autant que des cercles de réflexion, le monde économique, mais également le volet politique. Moi, ce que je retiens, c'est surtout aussi l'opportunité de faire valoir la parole de nos compatriotes ici au pays, auprès des parlementaires. C'est ce à quoi je me suis engagé en tant que député. Notre rapport va nous permettre déjà de porter des analyses peut-être plus approfondies que celles qui peuvent être parfois tronqué du fait du jeu des réseaux politiques. Là, je pense que c'est vraiment une assise qui est importante à partager avec nos compatriotes députés, parce que ça va nourrir aussi le débat de ce qui va être les discussions sur l'évolution institutionnelle.
Le rapport dressera des constats et fera des propositions en indiquant si l'ensemble des co-rapporteurs y sont favorables. J'ajoute qu'avant sa publication en juin, la mission sera auditionnée pour faire un point sur l'avenir institutionnel du territoire. Les deux députés de la France insoumise quittent le territoire ce soir. Mathilde Panot et Bastien Lachaud, arrivés il y a une semaine, ont multiplié les rencontres sur le terrain. Alifou, Koné, Wailou, Canala, Nouméa, où ils se sont rendus au Camp Est et à Saint-Louis. Ils se disent très préoccupés par la situation sociale. Ils regrettent que les discussions politiques de Deva aient débouché sur un échec et ils soutiennent la proposition d'indépendance association proposée par le ministre des Outre-mer, a expliqué Mathilde Panot.
C'est des parlementaires qui sont des fervents opposants politiques à Valls qui le disent, mais on observe que par le biais du ministre, tout le monde s'est remis autour de la table, c'est la première chose. On observe aussi que si on regarde la proposition qui a été mise sur la table par l'État, on a 3/5 du Congrès qui, en tout cas, avait un accord pour partir discuter autour de cette proposition-là. Une base qui est intéressante pour la poursuite de la discussion. La troisième chose, c'est que des échanges qu'on a eus, et on a eu des échanges assez larges, pratiquement avec tous les acteurs politiques, une conscience à la fois de l'urgence de la situation pour arriver à un accord global et une volonté de poursuivre ces discussions-là. Nous, de ce qu'on entend, on aurait une potentialité d'avoir un décret pour organiser les élections qui arriverait fin juin. Donc ça laisse une fourchette de temps dans laquelle les partis pourraient se reparler. En tout cas, il faut tout faire pour qu'on arrive à un accord.
Un accord qui permettrait, estiment les députés LFI, de régler la question de la dette et de la création d'un fonds d'urgence. Sans oublier, disent-ils, la situation des prisonniers politiques. Et quand on leur fait remarquer que les prisonniers en question ne sont pas incarcérés pour leurs opinions politiques, mais dans le cadre d'une enquête sur les responsables des émeutes insurrectionnelles, voici la réponse de Bastien Lachaud.
C'est comme cela que c'est perçu par un grand nombre de personnes, et rien que cela justifie, au nom du destin commun, au nom du fait que l'on veut avancer ensemble sur ce territoire, justifie qu'on le prenne en compte. Quand une grande partie des négociateurs inscrivent la question des prisonniers politiques dans le débat, on ne peut pas le tirer d'un trait.
Des propos recueillis par Jean-François Baudin. Je rappelle que Mathilde Panot et Bastien Lachaud quittent le territoire ce soir. De rendez-vous dans l'agenda politique du week-end. Demain matin, l'éveil océanien réunira son troisième congrès. Il se déroulera au doc socioculturel de Païta. Un congrès électif, puisque les militants devront désigner le président du parti pour les 3 ans à venir et renouveler le bureau. Ce congrès permettra aussi de revenir sur le conclave de Deva et le désaccord politique qui en résulte. Toujours demain, l'Union calédonienne organise de son côté un comité directeur pour faire le point aussi sur les discussions et la situation politique.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, après la proposition d'indépendance association posée par Manuel Valls et l'absence d'accord sur l'avenir institutionnel, souhaitez-vous que le président de la République, Emmanuel Macron, intervienne dans le dossier calédonien? Si vous souhaitez qu'il intervienne, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 93% des auditeurs de RRB qui se sont exprimé par SMS, estime que les conducteurs de Tanéo ont eu raison de débrayer pour protester contre les caillassages dont ils sont la cible. Ils sont 7% à ne pas partager cette opinion. 18h pile, première pause dans ce journal avant de voir l'actualité judiciaire sur le territoire.
Et si cette année, on chouchoutait nos mamans? Jusqu'au dimanche 25 mai, joue avec Arnott, ses tentes de lui offrir un week-end détente, une journée au spa ou un coffret de pâtisserie pour partager un moment ensemble. Réalise une recette avec ton produit Arnott's préféré et double tes chances de gagner. Pour jouer, rendez-vous dans l'un des magasins participants. Plus d'informations sur le Facebook Arnott's Community NC. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible chez Maître Citrita.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 21 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
Découvrez Papaye, le nouveau service d'autopartage 100% digital pour les particuliers et les pros. Réservez en un clic et roulez en toute liberté. www.papaye.nc.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Soir, Léana Colombo.
Plusieurs interventions et interpellations ont eu lieu la nuit dernière à Nouméa. Vers 20h30, d'abord, les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de 2 mineurs à Montravel. Après que ces derniers aient jeté des projectiles sur les policiers, les 2 individus ont passé la nuit en garde à vue et sont désormais convoqués devant le tribunal pour enfants le 30 juillet prochain. Plus tard dans la nuit, peu avant 1h du matin, du côté de la vallée du Tir, 1/3 personne a été interpellée. L'homme a été arrêté alors qu'il installait une barricade enflammée. Il sera jugé pour des faits qu'il a reconnus lors de sa garde à vue. Et une décision de rendu, l'homme qui était jugé depuis hier aux assises pour assassinat a écopé d'une peine de 8 ans d'emprisonnement. Le ministère public avait requis 25 ans de réclusion criminelle, mais pendant le délibéré, les jurés ont requalifié les faits en coup mortel. Le verdict est donc tombé peu après 16 heures et l'homme a écopé d'une peine de 8 ans de prison. Pour rappel, le 27 décembre 2020 à Calagomène, l'accusé avait tiré à bout portant avec un fusil sur un jeune homme. Du côté du tribunal correctionnel, 6 mois de prison ferme pour l'homme qui comparaissait à Nouméa. Le cinquantenaire avait proféré des menaces de mort à l'encontre du haut commissaire et de plusieurs élus. Menaces de mort diffusées sur les réseaux sociaux entre le 25 avril et le 11 mai 2025, Léo Fichou.
Dans un communiqué publié ce matin, Yves Dupas, le procureur de la République, a détaillé le contenu des publications illicites. Une publication, par exemple, du 10 mai dernier concernait le haut commissaire Jacques Billan, sur laquelle on pouvait lire, et je cite, « On va attaquer le haut commissariat pour flinguer le haut commissaire ». Message sans équivoque également à l'endroit de plusieurs élus, tous issus des groupes loyalistes et rassemblements au Congrès à la province sud. Un message qui visait également le président du gouvernement. Dans l'un des messages, le quinquagénaire appelle, et je cite encore, à exterminer ses élus. Donc, dans son communiqué, Yves Dupin indique que lors de sa garde à vue, le mis en cause a reconnu les faits expliquant avoir répondu à des propos racistes tenus par d'autres internautes à l'encontre de la communauté kanak. Cependant, écrit encore Yves Dupas, l'exploitation des données numériques du mis en cause ont mis en évidence un comportement haineux et très violent de manière habituelle à l'égard des autorités publiques comme de la population dite expatriée. L'expertise psychiatrique de l'auteur présumé a par ailleurs conclu à une dangerosité criminologique par une inclination à l'incitation à la haine. Jugé ce vendredi, l'auteur de ces menaces a écopé d'une peine de 6 mois de prison ferme. Il a été incarcéré à l'issue de son procès.
Et justice, toujours des peines de 18 mois et 2 ans d'emprisonnement pour 2 des 5 fugitifs de la prison de Koné. Les individus étaient jugés ce matin au tribunal correctionnel de Nouméa pour évasion avec effraction et tentative de vol d'une voiture. Les prévenus âgés d'une 20aine d'années s'était évadé du centre de détention dans la nuit de lundi à mardi en escaladant le grillage. L'un d'eux s'était d'ailleurs blessé dans le processus. Une fois sortis, les fugitifs ont tenté de voler une voiture chez un particulier, mais n'ont pas réussi à la faire démarrer. Ils ont ensuite appelé les pompiers pour soigner le blessé qui ont par la suite contacté les gendarmes. Les 3 autres individus qui ont profité du passage ouvert par les premiers évadés sont quant à eux toujours introuvables.
RRB 18h05.
Grand succès pour le dispositif Sud Pro. En à peine 11 jours, l'intégralité de l'enveloppe allouée par la province Sud, soit 1,2 milliard de francs, a été consommée. 5 363 entreprises et patentées ont pu bénéficier de leurs 250 000 francs de crédit, Charlotte Coulson.
7 803 factures sont actuellement en cours de règlement par la province. L'institution explique que les entreprises déjà inscrites, mais n'ayant pas encore utilisé leur crédit, ne peuvent plus le faire pour le moment. Toutefois, leur enveloppe reste enregistrée dans le cas où les finances de la collectivité permettrait de relancer une nouvelle phase du dispositif. Dans un communiqué, la province Sud se félicite du succès de Sud Pro qui, je cite, démontre que la relance économique peut aussi passer par un appui direct et concret de la puissance publique. Fin de citation.
Et les prix à la consommation en hausse de 0,5% en avril. Cette augmentation est principalement tirée par les prix des produits manufacturés, des services et dans une moindre mesure les prix de l'énergie. Sur un an, ils augmentent de 3,3%. Concernant l'alimentation, la hausse des prix ralentit. L'augmentation des prix des légumes et des fruits, en particulier de la tomate, du chou vert et du melon, et des prix des produits laitiers est compensée par la diminution des prix du poisson et des pains et céréales. Sur un an, les prix de l'alimentation augmentent de 5,3%. En glissement annuel, l'indice général augmente de 1,8%. La CMA tire la sonnette d'alarme. Le tissu artisanal calédonien est en danger. La Chambre de métiers et de l'artisanat a dévoilé des données sur l'état de santé économique du secteur. Un artisan sur 3 gagne moins que le SMIG. Près de 50% des artisans sont en grande difficulté, dont près d'un quart envisagent de quitter le territoire. Au 1er janvier, il n'y avait que 10 778 établissements, chiffre le plus bas constaté depuis 2009. Les événements du 13 mai 2020 ont accentué les difficultés. 88% des artisans encore en activité ont subi une perte directe de chiffre d'affaires et 1 sur 2 n'a bénéficié d'aucune aide. La CMA appelle donc les décideurs publics et l'ensemble des partenaires économiques à se mobiliser. Le CESE était quant à lui réuni ce matin pour examiner un projet de délibération portant sur la valorisation de la scorie de nickel calédonien à l'export. De plus en plus, la Nouvelle-Calédonie s'intéresse au potentiel économique et environnemental de la scorie. Cette valorisation permettrait non seulement de réduire les déchets industriels, mais aussi de promouvoir l'économie circulaire. Mais pour que cette filière soit économiquement viable, il est nécessaire de réviser les tarifs douaniers appliqués, explique Atem Belagi, président de la commission des développement économique, fiscalité et budget au CESENC.
Aujourd'hui, on produit énormément de scories, on parle d'1 200 000 tonnes par an, et on commence un petit export de scories qui n'est pas grand-chose. Aujourd'hui, on parle de 40, 50, exceptionnellement, on fait un peu plus. Et c'est un produit, d'une part, qui pose souci parce qu'il faut stocker, et d'autre part, il peut être exporté ou même transformé. Donc, il y a un aspect, je dirais, économique, un aspect environnemental. Vu qu'on parle d'un produit qui pèse lourd, réduire le tarif douanier de 50 francs à 10 francs par tonne de droits de quai permettrait de rendre plus viable cette activité parce que les marges ne sont pas très importantes et on espère que c'est une filière qui va se développer.
Le CESE a voté favorablement à la majorité sur ce projet de délibération. En bref, l'OPT alerte sur une tentative de fraude de type phishing ou hameçonnage. Un message SMS ou mail usurpant l'identité de l'OPT invite les usagers à rappeler un numéro surtaxé, à payer des frais de livraison ou à réclamer un faux remboursement. Il s'agit ici d'une tentative de fraude. Il ne faut donc ni cliquer sur le lien ni répondre. L'OPT rappelle de ne jamais partager vos codes bancaires par téléphone et de rester vigilant quant à l'origine des messages. C'est bientôt le grand départ pour certains jeunes. Dans quelques mois, des étudiants s'envoleront pour poursuivre leur cursus en métropole. Certains expérimenteront alors pour la première fois la vie en autonomie. Comme chaque année, la province Sud tient des réunions d'information ouvertes à tous. Et c'était le cas ce soir à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Charlotte Coulson.
Oui, le départ en métropole, c'est un grand saut qui peut parfois être stressant. Beaucoup de choses sont à prévoir. La carte vitale, le logement ou encore le compte en banque. Autant de points primordiaux qui étaient abordés par le personnel de la province Sud lors de cette réunion d'information tenue ce soir. L'amphithéâtre 400 de l'Université de la Nouvelle-Calédonie était entièrement rempli. Un signe encourageant, selon Marie-Jo Barbier, présidente de la commission enseignement de la province Sud.
Bah écoutez, c'est une surprise très agréable de voir autant de monde, autant de parents, autant de futurs étudiants. C'est une réunion d'information vraiment complète. Ils ont déjà eu des ateliers de préparation à Parcoursup. Et donc là, c'est vraiment, vraiment les guider sur leur choix, les motiver à s'inscrire aux ateliers de préparation au départ. Et ensuite, pour leur arrivée, parce qu'on a quatre départs qui s'échelonnent entre le 12 et le 29 août. Ils arrivent à Lyon et là, les agents provinciaux, lorsque les ateliers sont terminés, ils les mettent au train. Ils les mettent au train, ils les accompagnent jusqu'à mettre leurs valises dans le train. Moi, j'ai vu des photos l'an dernier. J'ai trouvé que voilà, les étudiants n'étaient pas perdus, qu'ils avaient autour d'eux des agents qui étaient en fait une seconde famille.
Et pour l'instant, les étudiants sont toujours dans l'attente de leurs résultats d'admission qui tomberont le 2 juin sur Parcoursup. Mais ils prennent de l'avance. C'est le cas de Jessica, 18 ans, qui espère étudier les arts en métropole.
Étant jamais partie là-bas, je viens justement me renseigner pour éviter justement les bêtises, les gafferies ou vraiment de faire des grosses erreurs et avoir une grosse perte après sur ma bourse ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un truc d'information que je suis venue. Je prends énormément de notes, j'ai une histoire de déjà s'adapter à la vie étudiante qui sera assez rapide et assez compliquée ou chargée. C'est un gros stress maintenant que j'y pense, mais on a beaucoup d'aide, c'est vraiment bien. On a beaucoup de renseignements, on a beaucoup de personnes bien entourées, en tout cas ici en Nouvelle-Calédonie. Du coup, si on a vraiment besoin de poser des questions, d'être informé ou même d'avoir besoin d'aide, on est vraiment bien entouré, donc c'est très bien.
Les départs groupés organisés par la province Sud auront donc lieu du 12 au 29 août. Avant cela, il y aura d'autres ateliers de préparation qui se tiendront du 30 juin au 5 août. Et quant aux attributions des bourses de la collectivité, la commission devrait se tenir mi-juin.
Merci Charlotte Coulson. Dernière pause avant de voir l'actualité festive et le sport ce week-end.
Ah, ces assurances! J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Dimanche 25 mai, c'est la fête des mères. Pensez à réserver votre table dans le restaurant Le Bilboquet Plage au 26 46 60. Retrouvez la mini-carte spéciale fête des mères sur la page Facebook Le Bilboquet Plage.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flick Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flick Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flick Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Léana Colombo.
La fête du bœuf fait son grand retour à Païta. Après le Covid et les émeutes de mai dernier, cela fait déjà 4 ans que le célèbre rendez-vous est annulé. Et cette année, la municipalité a choisi de programmer une 26e édition basée sur la convivialité et la solidarité, Charlotte.
Oui, c'est une note à marquer dans votre agenda, le 20 juillet. La fête du bœuf se tient d'habitude en fin d'année, mais il était important pour la municipalité de ramener un peu de vie dans la commune, fortement touchée par les émeutes. Il s'agit pour la maire de la commune, Marilyn D'Arcangelo, de renouer avec une fête identitaire, mais aussi de proposer un événement solidaire. L'entrée sera gratuite et le prix des stands à 3000 francs les 9 mètres carrés. Et comme chaque année, l'événement prendra place à Gadji, un site fortement dégradé lors des émeutes de l'année dernière. À cela s'ajoutent les difficultés budgétaires auxquelles fait face la commune. L'événement sera donc revisité. On fait le point avec le président du comité des fêtes de Païta, Patrick Grépeau.
Alors dans mon domaine du rodéo, on ne retrouvera pas la baignade de bétail, le marquage et le dépeçage de la bête. C'est ces trois choses-là qu'on ne retrouvera pas cette année. Voilà. Cette année, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a plus les installations pour le faire. Tout a été brûlé. La ville, la musée, il n'y a plus rien, il y a une dalle aujourd'hui. Et mon carré de rodéo, ils ont découpé les barrières et ils ont volé plus de la moitié du carré. Et on n'a pas les finances pour pouvoir remettre ça tout de suite. Si la fête du bœuf est là l'année prochaine, on essaiera de refaire tout ça, quoi. Alors les nouvelles activités, il y aura toujours les animels, la dégustation du veau avec les haricots païta, le rodéo, les activités qu'il y a autour, les stands et les animels comme on fait tous les ans, quoi.
Et malgré les difficultés, vous l'avez entendu, on retrouvera un grand nombre d'animations incontournables. Le rodéo, bien sûr, avec la venue de juges australiens spécialement pour l'occasion. Nouveauté également cette année, le concours de barbecue. Et puis la fête du bœuf, c'est aussi l'occasion de déguster les animels. Je parle bien sûr des couilles de veau. En bref, plus de 250 stands sont prévus sur place. La réservation sera possible dès le 2 juin.
Et on fait le tour des sorties du week-end avec vous, Charlotte. Au programme, plusieurs activités découvertes. Et on commence ce samedi avec les portes ouvertes de la piste de BMX Race à Tina.
Une discipline en plein essor depuis le triplé français aux Jeux Olympiques de Paris. Malgré l'incendie volontaire des Algeco au début du mois, le comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie accueillera les visiteurs. Curieux, passionnés, riders confirmés et sportifs en herbe. Stéphane Coulon, président du comité régional.
Tous les publics dès l'âge de 6 ans pour des sessions gratuites d'initiation, au travers d'ateliers, de tours de piste. En fait, nous disposons d'une trentaine de vélos, de casques, de protection qui seront mis à disposition pour les gens qui souhaitent s'initier et qui n'ont pas le matériel en leur possession. Nous savons et nous voyons régulièrement que les pistes de pump track sont très fréquentées. Donc nous supposons que les gens qui fréquentent ces pistes de pump track ont tout intérêt à venir fréquenter la piste de BMX Race. La piste est vraiment géniale, d'un niveau excellent. Et puis le BMX a un côté fun indéniable qui attire fortement les jeunes de 6 à 20 ans, quoi.
Rendez-vous donc ce samedi de 8h à 16h sur la toute nouvelle piste de BMX de Tina pour s'essayer à cette discipline. Les renseignements sont à retrouver sur la page Facebook du comité régional de cyclisme.
Et dans le même registre, le vélo au féminin sera à l'honneur demain à la gare maritime de Nouméa.
Il s'agit déjà du deuxième atelier du projet Elle en Selle. L'association Droit au Vélo NC animera un atelier d'auto-réparation de vélo. L'occasion d'en apprendre plus sur les techniques d'entretien et de réparation de son vélo ou pour être encore plus autonome. Le rendez-vous, c'est de 8h30 à 11h30 demain à la gare maritime de Nouméa.
Et puis à une semaine de la fête des mères, de nombreux marchés sont organisés pour permettre aux Calédoniens et Calédoniennes de trouver de quoi ravir leurs parents.
À la maison des artisans de Nouville, c'est le salon de l'association des métiers d'art calédoniens qui continue tout le week-end de 9h à 17h demain et puis de 9h à midi ce dimanche. Et toujours pour ravir les mamans, le Garden Market se déroule à la galerie Port-Plaisance à Nouméa de 9h à 18h. Et enfin à Dimbéa, c'est au Parc Fayard que les Calédoniens pourront trouver leurs cadeaux. La matinée sera aussi rythmée par de nombreux spectacles de chant et de danse. Rendez-vous de 7h30 à 14h.
Allez, on ouvre la page sport de ce week-end et nous allons feuilleter ensemble l'agenda de votre week-end sportif en métropole et dans le monde, Léo Fichou.
Oui, avec du football d'abord et la 34e et dernière journée du championnat de France de Ligue 1. Pour cette journée, comme pour la précédente, l'ensemble des rencontres se joueront au même moment. À suivre donc dimanche matin pour nous, Marseille-Rennes, Lyon-Angers, Nice-Brest, Saint-Étienne-Toulouse, Lille-Reims, Strasbourg-Le Havre, Nantes-Montpellier, Lens-Monaco et enfin PSG-Auxerre. Coup d'envoi de toutes ces rencontres, ce sera à 6h donc dimanche matin. Et puis du rugby aussi avec la 24e journée du Top 14, le championnat de France élite. Les matchs, se joueront demain soir, dimanche et lundi matin pour nous. Demain soir à suivre Bordeaux-Bègles-Castres, dimanche matin à suivre Clermont Perpignan, Bayonne-Vannes, Pau-Toulon, Stade Français-Lyon et Toulouse Racing 92. Lundi matin, en clôture, La Rochelle recevra Montpellier.
On passe au sport mécanique.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et donc de la Formule 1 au programme ce week-end avec le Grand Prix d'Émilie-Romagne sur le tracé d'Imola.
Premier d'une série de 3 Grands Prix d'affilée en Italie donc d'abord, puis à Monaco avant d'aller en Espagne à Barcelone. Pour le Français Pierre Gasly, c'est un enchaînement important pour grappiller des points au classement général.
On sait qu'on a des points à aller chercher. On a montré une bonne performance à Jeddah et à Bahreïn, c'était plus compliqué à Miami, mais je pense qu'on a eu des bonnes réponses avec les derniers jours passés à l'usine. Et puis il y aura 3 opportunités, Imola, qui est un circuit que j'apprécie énormément, Monaco, qui est forcément très spécial, où dans le passé ça nous a plutôt bien réussi. Et la dernière à Barcelone, où pareil, on a été plutôt performants. Donc, hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire sur ces Grands Prix.
Les premiers essais libres du Grand Prix d'Émilie-Romagne se dérouleront ce soir et la nuit prochaine pour nous. La séance de qualification aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 00h40. Enfin, le Grand Prix sera à suivre à minuit dans la nuit de dimanche à lundi.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Et à suivre également ce week-end, la 5e manche du championnat du monde des rallyes.
Pilotes et écuries sont au Portugal à l'issue de la première spéciale longue de 2 km 900. C'est le Britannique Elfyn Evans qui est en tête. Il devance de 0,2 seconde Sébastien Ogier et l'Estonien Ott Tanak. Et puis on parlera aussi de cyclisme ce week-end. À suivre la suite du Giro, le Tour d'Italie.
Et passons au sport sur le territoire avec du football d'abord. Après plus d'un an d'attente, c'est enfin le retour de la Super League.
Oui, le coup d'envoi d'une saison au format transitoire sera effectivement donné demain à 14h au stade Boeva du Mont-d'Or. Le CA Saint-Louis sera opposé à l'AS Cougnet. Puis à 16h30, l'AS Mont-d'Or recevra Heerenveen. Du côté de Nouméa, 2 rencontres seront au programme. À 15h, l'AS Magenta affrontera l'AS Lossy. Dans la foulée, à 17h30, Tigasport sera opposé à l'AS Gaïcha. Ces 2 rencontres seront à suivre en direct à la télévision sur Canal+, la chaîne Pacifique+. Pour ceux qui souhaitent aller directement au stade, notez que la tribune d'honneur du stade Numadélé est toujours fermée. Seule la tribune côté mer est ouverte. L'entrée est à 300 francs.
En bref, d'autres rendez-vous sportifs demain à Nouméa.
Du tennis de table d'abord avec le tournoi d'Ultimate Ping en double à la salle Jean Noyon dès 8h30 pour les débutants et les familles. Puis l'après-midi de 13h à 18h pour les pros. De l'haltérophilie aussi à la salle de Lanzvata avec le challenge de l'avenir dès 9h pour les jeunes. Puis 9h45 pour les juniors et 11h15 pour les seniors.
Et partons sur l'eau maintenant avec le championnat de Calédonie longue distance de kayak monoplace. De surf-ski et d'océan se déroule demain en baie de Sainte-Marie.
Oui, avec un départ et une arrivée à la Côte-Blanche. Dès 9h, les dames s'élanceront sur un parcours de 16 km. Suivra vers 13h30 la course V6 mixte réservée aux loisirs sur une distance de 8 km. Enfin, la troisième course démarra aux alentours de 11h30 avec toutes les catégories hommes en K1, surf-ski donc et océan. Et puis notez aussi, tant qu'on est en mer, ce concours de pêche au gros organisé par Pélagique NC. C'est demain à Boulary, fin des inscriptions à 5h du matin. Retour dans la baie à 14h30 et la pesée, toujours impressionnante à voir, ce sera à 15h.
Et pour les amateurs de sport en pleine nature, c'est dimanche que se déroule à la Tontouta un trail pour la bonne cause.
Le trail de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Les inscriptions sont ouvertes depuis jusqu'à mercredi. Il reste encore quelques places sur les 2 parcours les plus courts. Pardon. Écoutez Marc Sabatier, le président de la station SNSM de Nouméa.
Nous avons choisi un nouveau lieu pour faire ce trail qui sera sur la propriété Montagna côté mer et c'est une première puisqu'il n'y a jamais rien eu d'organisé là-bas. C'est pas un trail réservé à l'élite, hein. Il y a 3 distances, il y a du 14 km, du 8 km et du 4,5 km. Et sur le 14 km, si les gens veulent être chronométrés, il faut avoir un certificat médical. Sinon, sur toutes les autres distances, il n'y a rien besoin. S'inscrire auprès de Challenge, organisation qui manage le trail. C'est un moment important parce que ça nous permet de nous faire connaître auprès de tous les gens parce qu'on est souvent à mer. Là, on sera à terre et ça nous permet de nous rapporter de l'argent pour pouvoir faire fonctionner la station.
Et puis, on rappelle que près de 1000 participants seront présents sur ce trail pour la bonne cause, le trail de la SNSM, donc dimanche à la Tontouta. Et puis, un mot de cyclisme pour terminer, c'est dimanche qu'aura lieu le Grand Prix Roger Larocque du VCC Mont-d'Or, compétition organisée sur les circuits de la baie de Coutiou à Ducos. Les écoles de cyclisme débuteront à 7h30 et seront suivies des autres catégories.
Merci Léo Fichou. On passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover,
aménagée.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Oui, allons-y. Alors, cette nuit, sur les Céos îles, la couverture nuageuse deviendra plus dense et les averses seront parfois modérées. Ailleurs, le ciel sera généralement bien dégagé, le temps restera sec. Le vent de secteur est maintiendra entre 15 et 20 nœuds. Sur la côte ouest, le vent soufflera entre 5 et 10 nœuds avec des accélérations autour de 15 nœuds dans l'axe de certaines vallées. Les températures de la nuit resteront élevées et s'échelonneront entre 20 et 25 degrés. Demain matin, les nuages seront encore nombreux sur l'est où des averses parfois modérées pourront encore se produire. Sur la pointe sud et aux loyautés, des passages nuageux donneront quelques gouttes par endroit. Ailleurs, le temps restera sec sous un ciel généralement peu nuageux. Le vent de secteur est se maintiendra entre 15 et 20 nœuds, localement autour de 10 nœuds sur la côte ouest.
Et merci beaucoup, Nicolas. C'est la fin de cette édition riche en informations.